Jean-Marc Gaucher, il me semble qu'en termes de renaissance, vous êtes un phénix, et que, en plus, votre sort, en tout cas celui de Repetto, est lié, d'une certaine manière, au centre du luxe et de la création.
Il y a 10 ans, j'avais gagné un prix du sommet
du luxe. Le talent
du
management.
Et à l'époque, l'entreprise était en situation très difficile. Je venais d'obtenir, j'étais assez content, un plan de continuation auprès du tribunal de commerce. J'ai repris cette entreprise qui avait 100 millions de francs de dette. J'ai gagné ce prix. Et quelques jours après, j'ai un banquier de Dordogne qui m'appelle. Il me dit, écoutez, vous avez un plan de continuation, c'est bien, mais avec ça, vous ne ferez rien du tout. Donc, je vous propose quelque chose. Vous me donnez tout ce que vous avez. Et en échange, je vous paye votre plan de continuation. Ce que j'ai fait. Et grâce à ça, on a pu se développer. Et depuis, on a multiplié notre chiffre d'affaires par 12.
Donc, vous en êtes à un peu plus de 50 millions d'euros, là, cette fois-ci.
Oui, c'est bien. Donc, voilà le sommet du luxe. Quand Julie m'a appelé, elle m'a dit, est-ce que c'est possible? Je lui ai dit, oui, Julie, je serai toujours redevable au sommet du luxe.
Alors, comment est-ce que vous y êtes pris, en tout cas au début? Quel cadre vous êtes-vous fixé? Quels objectifs et quels moyens, au fond, vous êtes-vous donné dans la mesure du possible?
Alors, avant de venir chez Repetto, avant de faire une proposition de reprise de cette société, qui était en situation très difficile. Mais j'ai pensé qu'il était beaucoup plus facile de restructurer une société que de créer une marque. Donc moi, j'ai repris cette marque, parce que c'est ce qui m'intéressait, c'était la marque. Et j'ai écrit, ça m'a pris 6 mois et j'étais tout seul sur ce que je veux faire lorsqu'on construit nos plans à 5 ans. C'est toujours les 3 mêmes lignes qui sont en démarrage. Et les 3 lignes, c'était « Nous serons une marque mondiale qui développe des produits exclusifs ». Donc chez nous, on a une tendance à garder les stylistes, mais s'ils font de la copie, ils partent. Donc ça, c'était le deuxième objectif. Troisième, qui développe des produits les plus techniques de l'industrie du luxe, de la danse. Parce que la danse, c'est une image, on est la seule marque de danse qui a réussi à sortir de son territoire et à vendre d'autres produits. Donc notre cadre de développement, c'est autour de la danse. Et ensuite, ce qu'on voulait faire, c'est positionner la marque dans l'univers du luxe. Lorsqu'on produit en France, on peut être positionné que haut de gamme pour pouvoir commercialiser. Cette association avec la danse ne peut être que haut de gamme. Donc on a changé complètement notre distribution, complètement tout, mais on est resté dans ces 3 lignes. On avait une boutique en 2000 et on a aujourd'hui un peu plus de 100 boutiques dans le monde, à Enseigne Repetto. On a passé 20-30 ans en France et peut-être dans d'autres pays que la France où personne n'avait envie que son enfant aille faire de la production parce que c'était pas très très bien. Moi, lorsque j'ai repris Repetto, on fabrique nos ballerines et presque toutes nos chaussures comme des vêtements, à l'envers. Et une fois que c'est cousu, on les retourne. Donc vous ne voyez pas la semelle, c'est pas qu'ils sont toutes fines, elles sont à l'intérieur de la chaussure. Et c'était en train de disparaître. Donc quand on a la croissance qui est arrivée, et quand je dis disparaître, on avait un seul couseur, une seule personne qui savait coudre ces chaussures-là. Donc c'était vraiment chaud. Donc on a dû ouvrir une école pour former du monde. En propre, on était tout seul sur l'école, on l'a ouvert. Ensuite, la région s'est proposée de nous aider. Ils sont venus nous voir, le président de la région, qui a dit, super, si vous vous installez, allez en Aquitaine. Alain Rousset comprend très bien les entreprises, il sera ravi de vous accueillir. Et j'explique à Rousset, je lui dis, c'est terrible, c'est parce que la France dans le monde est reconnue, est associée au luxe, on est capable de faire ça. Et il n'y a plus d'école du tout en France pour fabriquer de la chaussure, ça n'existe plus. Alors, il y a encore quelques... Donc je lui dis, voyons, j'ai ouvert cette école et on allait faire une petite conférence de presse pour présenter l'école. Et je dis, peut-être en haut du chemin, là, je fais une crise cardiaque et c'est fini, tout s'arrête. Et ça a disparu. Et je lui dis, ça serait mieux, cette école, on ne la laisse pas juste à Repetto. Et moi, je serais ravi que d'autres marques puissent venir et qu'on apprenne à des jeunes comment on travaille le cuir, comment on coule le cuir, comment on coule du cuir, comment on entretient du cuir, qu'on leur apprenne ces métiers-là. On a fait conférence de presse, il a annoncé que ben voilà, c'est ce qu'il allait faire, qu'il allait demander à ses équipes de travailler sur ce projet. Et aujourd'hui, il y a Hermès qui nous a rejoints, qui fait forme du personnel. Il y a Weston qui est avec nous. Il y a CWD qui fait des selles d'équitation très haut de gamme qui nous a rejoints aussi à l'école. Il y a plein de petits artisans de la région qui travaillent pour des marques de luxe comme sous-traitants qui forment du personnel dans l'école. Et c'est quelque chose qu'il faut absolument préserver parce que si on n'a plus les savoir-faire, tout ce dont on parle, ça n'existera plus. Le jour où on sera obligé d'envoyer l'industrie de la chaussure, la mode, maintenant, il y en a plein qui partent en Éthiopie. Si demain, tout le monde part en Éthiopie fabriquer des chaussures, ça sera très difficile de maintenir cet ancrage qu'on a en France. Donc c'est important de former, c'est important de maintenir, et puis pour pouvoir vendre cet ancrage au sommet du luxe, donc ce positionnement de luxe, le savoir-faire en France, le fait que les gens voient ce qui est fait. Tout à l'heure, vous allez revoir ce film qu'on a fait. Les pays ont été vraiment impressionnés de rencontrer tous les collaborateurs que l'on a, que les collaborateurs leur expliquaient le métier. Et pour les gens, c'était quelque chose de vraiment unique. Et c'est ce qu'il faut qu'on préserve, quels que soient les domaines d'activité dans lesquels on a, il faut qu'on préserve, il faut qu'on encourage. Et ce que l'on a fait, Julie, prenez les exemples des ateliers, donc des grands ateliers, j'espère que ça n'existe plus nulle part où il y a des grandes lignes de production. Nous aussi, c'est les petites équipes. Et ce qu'on a fait, comme on a ouvert l'école, même les plus anciens salariés qu'on avait, on les a formés aux autres métiers. Et toutes les 2-3 heures, alors, au démarrage, il y a plein qui ne voulaient pas changer de poste. Donc ce qu'on a fait, ceux qui acceptaient et qui étaient capables de tenir 2 fonctions, bah, touchaient 5% de plus. Ceux qui faisaient 3 fonctions touchaient 10% de plus. Et aujourd'hui, l'ensemble de tous les collaborateurs qu'on a sont capables de remplir toutes les missions. Donc toutes les, déjà, s'il y a des gens absents, ça nous permet de faire tourner et de caler. Et puis pour eux, l'intérêt est complètement différent dans leur métier parce qu'ils savent fabriquer de A à Z un produit. Et puis, ils comprennent mieux le travail des autres. S'il fait mal sa couture, il sait que la personne qui lui succède va être gênée pour faire ce travail-là. Donc, ça a changé complètement la mentalité dans l'entreprise. Et chacun se sent propriétaire des produits qu'il fabrique. Et ça, c'est une chance unique que l'on a aujourd'hui. Mais si vous avez l'opportunité de faire des choses comme ça, former du monde à ces métiers-là, parce que sans personne qualifiée, tout ça s'arrêtera un jour.